Michel Serrault, qu'est-ce qui vous intéresse dans les gros chiens?
J'aime bien la présence d'un gros chien. Et puis ça a l'air d'un chien. J'aime bien des bêtes qui sont pas trop trafiquées. Parce qu'il y a des... Vous avez des chiens, on sait plus très bien ce que c'est. C'est une machine à coudre, un chien, un chapeau de... avec des fleurs.
CO2, mon amour.
Vous savez, le chien, pour moi, c'est un peu comme la cuisine. J'aime les plats nets solide. Et solides. Oui, mais nets, qui sont pas trop sophistiqués.
Avec Denis Chessou.
Le chien a un maître la journée, oui. Et une maîtresse le soir. Enfin,
vous voulez parler du théâtre?
Oui.
Oui, bah oui. Mais il ne connaît pas sous cet angle-là, voyez.
Sur France Inter.
Il m'a rarement vu en robe.
Même à la télévision.
D'ailleurs, je m'y fierais pas parce qu'il serait capable de me voir.
Allez, allez, les toutous, les humains, donc maintenant à l'écoute de CO2 Mon Amour. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Cette émission qui va prendre gentiment son temps et qui rapproche les hommes ou nous rapprochant de la nature, avec Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet à la technique, et assistée de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors oui, je suis une belle terre et on veut me visiter, ce qui est normal. Hein. Les peuples veulent se relier, commercer, découvrir mes hauteurs, mes vallons, mes océans et les cultures que les hommes ont inventées sur mes continents. Alors, hommage bien sûr à Montgolfier, Clément Ader, Blériot, l'oiseau blanc, j'en passe, Lindbergh, Mermoz. Car autour de moi vont brillonnent, résonnent et kérosènent les avions. 100 000 trajets par jour, dit-on. Mais faut-il encore plus d'aéroports en France quand on en a un pour 400 000 habitants? Un chiffre 3 fois plus élevé qu'au Royaume-Uni, 6 fois plus qu'en Italie et 12 fois plus qu'en Allemagne. Ah, il est pas beau le tarmac de la France, hein? Mais est-ce qu'on peut faire du neuf avec de l'ancien? Contrôlez vos vis-à-vis, PNC à vos bottes, nous atterrissons à Notre-Dame-des-Landes. Là, avec le Triton marbré, vous marchez sur le futur hall départ et arrivée de l'aéroport international. Ici, les batraciens apprécieront la tour de contrôle qui dirigera le flux migratoire des Airbus. Des oiseaux intrépides pourront même se fracasser sur les vitres. Ici, le pélodite ponctué pourra acheter le dernier iPhone dans la future zone commerciale. Et oui, on pourra même vous vendre aussi un bouquet de drosera chez le fleuriste bio que on ne manquera pas d'implanter sans cynisme aucun à deux pas du duty-free de l'étalement urbain de 20 km qui reliera Nantes. Alors bonne nouvelle, jusqu'à présent, le bleu le plus important n'était pas celui du ciel, non, ni celui du reflet des oiseaux, des ailes du martin-pêcheur, mais celui de la carte de la même couleur. Et l'an passé, l'excellent festival de musique classique, la Folle Journée de Nantes, célébra la nature, thème universel, sauf peut-être pour quelques-uns. Montrer comment les créateurs ont traduit en musique leurs émotions face à la nature, l'eau, la terre, le feu, la végétation, les animaux. Et la Folle Journée donc illustre en musique la phrase de Sénèque « Tout art est une imitation de la nature ». Alors les Vivaldi, Schubert, Beethoven, Rameau, Mahler de demain, inspirés par le lieu, composeront-ils un concerto pour Boeing, Flashball et Pesticides? Ah bah oui, il faut s'adapter. Hein. Mais quand même, bonne nouvelle ou fuite en avant? Le messie réacteur de Notre-Dame-des-Landes, hein, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Entrons-nous dans une société apaisée capable de redéfinir le progrès ou bien ferons-nous chauffer les pelleteuses et les CRS? Fin du feuilleton en janvier. Ah, et puis Denis, on va débuter par un petit message tout à fait positif, comme les familles du même nom, au 01 56 40 40 35.
Bonjour, c'est François en Dordogne. J'ai une minute pour vous parler du défi des familles à énergie positive. Il y a un défi où on s'engage à réduire nos consommations d'énergie et d'eau. On se réunit par groupe de famille, on échange des expériences pendant les mois d'hiver. C'est du 1er décembre aujourd'hui au 30 avril. Et on a l'aide de conseillers Info Énergie. Et le résultat, c'est 10 à 15% d'économie. Alors bonjour la COP23, on fait quand même un peu mieux. Soit 200 € par famille, c'est quand même pas mal, sans investissement. Et attention, ça commence aujourd'hui, il faut s'inscrire sur le site des familles à energiepositive.fr. Bonnes économies.
Et maintenant, donc, vous en avez un petit peu partout en France, soutenu bien sûr aussi par l'ADEME, il faut le souligner. Deux sujets d'actualité seront commentés par Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, sur One Planet Summit et aussi Notre-Dame-des-Landes avec la participation de Michel Polaco. Vous aurez aussi un reportage sur la communauté d'agglos de Seine-Eure qui a sanctuarisé, ça c'est très intéressant, une zone de captage d'eau potable en achetant des terres et en installant donc aussi dessus des maraîchers bio. Voilà, vous avez le menu, c'est parti, CO2 mon amour. Et dans quelques instants, attention, ça va être aussi du sapin bio de Noël qui nous attend.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Je m'excuse de vous déranger, mais il y a votre ami qui est coincé dans l'ascenseur.
Eh ben, madame Musquin, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Voyez bien ce qui m'est arrivé. Je m'époumote depuis une heure.
Je vais chercher les outils.
CO2, mon amour.
Thérèse, vous pouvez venir m'aider, je n'arrive pas à retirer le boîtier. Bon, si vous pouviez faire levier, je pourrais m'introduire. Voilà, allons. Ah 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 oh, putain de ta mère, salope, fais-moi ça.
Oh, ce qui devait arriver est arrivé. Il y a maintenant que vous avez réussi à vous faire mal. Vous allez peut-être appeler SOS Dépannage.
Avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah bah oui, on n'a pas pris les doubits de chou parce que ça vous connaissez par cœur. Donc le Père Noël est-il une ordure? Ben non. Tenez, coutume qui date de 500 ans. 6 200 000 en 2016 ont été vendus. Le Morvan est sa première terre d'exploitation. Je mets en moyenne 10 ans à pousser, un mois d'utilisation. Je suis. Eh bien oui, un sapin de Noël. Mais là, ça va nous intéresser. Bonjour à vous, Michel Vullier, parce que vous êtes à la tête de France Sapin Bio. Et vous êtes ancien agriculteur, donc bio, reconverti dans le sapin. Vous êtes en Ariège, pas loin de Saint-Giron et de Saint-Lizier. Alors présentez-nous, donc, s'il vous plaît, nos amis, les sapins bio, qu'est-ce que c'est ?
Bonjour Denis. Alors c'est un protocole en effet dans lequel il y a deux éléments importants qui sont pris en considération. Un, c'est un mode de culture dans lequel on doit rentrer aucun entrant phytosanitaire, si vous voulez, avec des molécules chimiques dans notre mode de culture. Donc pas de désherbage chimique, pas de fongicide, pas d'insecticide, pas d'hormones de croissance.
Mais le mouton est intéressant pour vous.
Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose qui encore, on est encore au début, hein. C'est pas encore quelque chose qu'on a hyper développé, parce qu'il faut quand même un sacré troupeau pour pouvoir s'occuper de ces éléments-là.
Oui.
Et donc là, on est avec une jeune agricultrice qui s'appelle Marion et qui, elle, a dit, ben moi, ça m'intéresse. Donc elle a acheté des moutons. On a fait ça avec un système de financement participatif dans cette aventure-là. Donc on a deux ou trois parcelles où on met en effet des moutons, donc qui permettent de diminuer très fortement les charges de mécanisation sur le débroussaillage, la tonte et ainsi de suite.
Et alors ils sont très très gentils parce qu'ils vont pas vous bouffer l'écorce et en plus ils vont faire de l'engrais naturel avec leur train arrière.
Parfaitement.
La contrepartie de cela, c'est que ça pousse quand même moins vite.
Bien entendu, à partir du moment où on ne met pas d'engrais, pas de ceci, de cela, on a un mode de production qui est beaucoup plus long, puisque au moment où les sapins sont plantés, donc ils ont déjà 3 ans, donc on va recouper des sapins à partir de l'année N+5 de ces plantations pour les premiers produits. Et ensuite, on peut avoir la plantation qui va aller s'étirer jusqu'à 10, 12 ans, 15 ans.
Alors c'est à la fois plus cher peut-être à produire parce qu'on imagine que la main-d'œuvre est plus importante, mais est-ce que l'on s'y retrouve aussi le fait que vous ne mettiez pas d'intrants ?
Si vous voulez, c'est des charges, hein. Ça aussi, ça coûte cher, hein, le chimique au niveau de l'agriculture. Et nous, du fait qu'on ne met pas ces produits-là, on peut passer du temps sur nos sapins, et ce qui fait qu'à la sortie, on a un sapin qui se place bien par rapport sur le prix du marché, au niveau du sapin de Noël, par rapport aux autres modes de production.
Alors, les cultures principales, c'est le Norman, parce qu'évidemment, au niveau des aiguilles, ça tient bien la chaleur, on va dire que ça tient bien la route. Quelle est l'origine, en fait, de la graine de Norman ?
La graine de Norman vient d'un ancien pays de l'Est, la Géorgie, et dans lequel ils ont des produits de très haute qualité et dans lequel ils font la récolte de cônes sur ces sujets-là. Et ensuite, par tout un réseau de transformation, vont jusqu'à des pépinières pour être élevées en culture. Et ensuite, nous, producteurs, on récupère ces jeunes plants qui ont de 3 à 4 ans et que nous mettons ensuite en pleine culture afin de pouvoir les élever pendant le reste de leur vie pour pouvoir les mettre ensuite sur le marché des utilisateurs du sapin de Noël.
C'était d'ailleurs un Finlandais qui s'appelait Alexander von Norman, hein. On est à peu près en 1835, qui avait découvert donc en Géorgie...
Un vrai aventurier.
Exactement, il avait découvert cette forêt extraordinaire et puis là, il s'était rendu compte que il y avait une qualité là, de graines assez incroyable, donc ça fournit bien sûr beaucoup de pépinières. Les conditions d'ailleurs pour récupérer les graines ne sont pas toujours géniales, hein, faut quand même bien le dire.
Il faut savoir que au niveau du sapin de Noël, et entre autres sur cette étape-là au niveau de la récolte des fruits, c'est un travail très fastidieux, puisque ce sont des personnes qui peuvent monter jusqu'à des arbres, donc il faut monter jusqu'à la cime.
Ils ne sont pas tous assurés en plus.
Il y a un risque de chute très important.
Exactement. Aujourd'hui, Michel, est-ce un véritable argument de vente ? Est-ce que les gens vont demander du bio ?
Les gens pensaient que le sapin de Noël cultivé et naturel était un sapin bio, alors que c'est pas forcément une vraie exactitude dans certains cas de mode de culture.
D'autant qu'il y a des conséquences sur les nappes phréatiques aussi. Lorsque...
Exactement. Mais il faut dire qu'en France, l'association française des sapins naturels font un gros effort pour pouvoir orienter sur un mode de gestion d'agriculture durable.
Et question tout à fait pratique, est-ce que mon sapin bio va coûter plus cher ou pas ?
Quand il part de notre exploitation pour arriver sur les centrales de redistribution, nous, on a un sapin de Noël qui va arriver chez eux sur un prix moyen de 12 euros l'unité.
Ah oui, non, c'est pas énorme. Ah la culbute, après, c'est pas vous qui la faites, quoi.
Non, et puis c'est les intermédiaires qui, selon leur élément, vont faire leur prix, quoi, c'est certain. Et nous on n'a pas de poids là-dessus.
Plus ou moins ce goin frais. Grand merci à vous, donc Michel, et puis on vous souhaite un très bon Noël aussi.
Merci.
Hein, vous allez avoir, vous en avez un de sapin chez vous quand même.
J'ai mis il n'y a pas très longtemps, donc je viens de le mettre, c'est mes enfants qui l'ont mis le week-end dernier.
Bon, tout va bien. À très bientôt. Merci à vous.
Merci.
Au revoir, Michel.
Au revoir, Denis.
Donc, Michel Vullier, donc de France Sapin Bio en Ariège. Deuxième sujet de CO2 Mon Amour sur France Inter. Avec un homme qui est sorti de l'école centrale de Nantes, ancien directeur de l'économie circulaire et des déchets de l'ADEME, ancien conseiller régional Europe Écologie Les Verts de Pays de Loire, il a été aussi porte-parole de la fondation donc Nicolas Hulot, et aujourd'hui il fait partie des 315 députés LR En Marche, donc c'est Mathieu Orphelin qui est élu dans le Maine-et-Loire, et dans le cadre d'ailleurs de l'équilibre républicain que nous devons dans chaque émission à Radio France, on lui donne volontiers donc la parole, car il a une véritable sensibilité écologique, c'est un homme qui est assez atypique, car ça a été des propos enregistrés jeudi, et il s'agit pour lui de réagir à deux actualités, dont celle-ci.
Emmanuel Macron inaugure ce mardi à Paris un sommet sur le climat pour célébrer le deuxième anniversaire de l'accord de Paris. Plusieurs dizaines de dirigeants sont attendus dans la capitale française pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Un sommet auquel n'a pas été convié Donald Trump, puisque les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le climat.
Je vais vous dire que ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. On est en train de perdre la bataille.
Il s'agit donc de relancer la mobilisation et selon la Commission mondiale sur l'économie et le climat, le monde doit investir 79 000 milliards d'euros au cours des 15 prochaines années pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors qu'on n'est pas du tout sur la trajectoire, actuellement on est entre 3 et 3,5 d'ici la fin du siècle, donc c'est un truc qui est parfaitement intenable. C'était organisé donc ce One Planet Summit avec la Banque mondiale, ce qui n'est pas neutre, mais quand même certaines ONG sont sceptiques car aujourd'hui, 0,1% des obligations vertes de la finance est dédiée au climat. Voilà, Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous. Il faut vraiment qu'on mobilise la finance pour venir financer la transition énergétique et la lutte pour le climat, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les financements verts, c'est vraiment un pouillème de l'ensemble des financements. Il suffirait de réorienter une petite partie de tous ces financements vers le climat pour qu'on puisse avoir des investissements à la hauteur de ce qu'il faut. En France, par exemple, il manque 30 milliards d'euros par an d'investissement dans la transition énergétique. Au niveau mondial, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de milliards d'investissements. Donc, il faut réorienter. Et au cours de ce One Planet Summit, beaucoup d'acteurs du financement ont pris des engagements concrets. Il y a des sociétés d'assurance qu'on dit maintenant on va arrêter d'investir dans le charbon. Il y a des banques qu'on fait la même chose. Il y a des fonds souverains, le fonds norvégien, le fonds de Nouvelle-Zélande qui vont se mettre ensemble pour se dire enfin on va agir pour financer la transition énergétique.
Donc il faut juste vérifier que ce soit vraiment le cas.
Faudra vérifier, c'est très important. Il faudra que les ONG continuent à se mobiliser parce que ce grand mouvement de désinvestissement des énergies fossiles, d'arrêter de financer le charbon, d'arrêter de financer les énergies polluantes, c'est un combat qu'on est en train de gagner grâce au travail de sensibilisation, de mobilisation des ONG. Et c'est les ONG qui ont lancé ce combat-là. Et il faut qu'aujourd'hui, il y a les premiers résultats. Et je crois que quand elles disent qu'il n'y a eu que de la communication à Paris, pour certaines d'entre elles, je pense que c'est un jugement un peu sévère. Oui. Au contraire, c'est toutes leurs alertes, tous leurs combats qui aujourd'hui se concrétisent. La finance bouge enfin sur le climat et c'est tant mieux.
Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un système financier qui globalement nous a mis dedans en le voyant se lancer dans cette croisade?
D'abord, il faut rappeler au système financier qu'on a été capable de sauver les banques. Maintenant, il faut donc être capable de sauver la planète. Est-ce qu'on peut faire confiance?
C'est Hugo Chavez qui, à l'époque, disait le climat serait une banque, il y a bien longtemps qu'on l'aurait sauvé.
Voilà, donc en tout cas, il ne faut pas leur faire confiance les yeux fermés, mais il faut les accompagner dans cette révolution. Il y a eu d'ailleurs des premières avancées. En France, on était le premier pays à avoir une obligation de reporting. Tous les investisseurs, depuis la loi de transition énergétique, ont l'obligation de dire comment ils prennent en compte la transition énergétique et le risque climatique dans leur politique d'investissement. Donc, on a été précurseur là-dessus. Maintenant, il faut concrétiser tout ça et surtout aider tous ces investisseurs publics et privés à faire ce basculement vers les financements verts et à accélérer ça. Parce que le sommet de cette semaine à Paris, c'était ça le mot d'ordre. On accélère sur les financements. On n'est pas là pour tenir des promesses, on est là pour s'engager plus rapidement, notamment sur ces aspects financiers.
Alors Mathieu Orphelin, on voit des choses qui sont aussi tout à fait intéressantes de la part des villes, de la part des régions, j'en oublie, évidemment des citoyens, c'est-à-dire que ça percole, mais en remontant aussi.
La vraie question, c'est est-ce qu'on va aller assez vite? Il faut accélérer, on sait que les engagements actuels, c'est la moitié de ce qu'il faudrait faire pour maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés.
À part que donc, là, on est entre 3,2 et 3,5 d'ici 2100.
Donc il faut aller beaucoup plus vite. Et donc, ça veut dire que tous les acteurs, à tous les niveaux, doivent faire plus. Les États, bien sûr, mais aussi, vous avez raison, les collectivités locales, les entreprises, chacun d'entre nous, les citoyens, il ne faut pas qu'on s'exonère de ce qu'on peut faire au niveau individuel. Il faut qu'on accélère tous. Et donc, c'est très bien cette mobilisation générale. À Paris, cette semaine, il y avait les États américains qui nous disent « Nous, on va faire la part du job que fera pas Trump au niveau des États-Unis. Nous, États et villes américaines, on va faire le job. On va effectivement prendre notre part et compenser la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. » Ici, en France, on a les collectivités qui se mobilisent de façon formidable. On a les citoyens, on a toutes ces initiatives de terrain. Voilà, il faut accélérer cette mobilisation. C'est l'enjeu. parce que si on n'y arrive pas, c'est évidemment un désastre climatique qui va nous frapper encore plus fort qu'aujourd'hui.
Alors Mathieu Orphelin, donc vous êtes député aujourd'hui, donc vous avez une sensibilité environnementale affirmée, et c'est aussi pour ça que vous
J'assume bien.
Donc vous êtes aujourd'hui donc député En Marche, donc du Maine-et-Loire. Vous le savez, bon, c'est pas une surprise de dire qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat, ne portait pas exactement l'écologie de manière très très forte. Et alors aujourd'hui, donc il enfile, on va dire, l'habit d'ambassadeur mondial de la lutte contre le réchauffement. Trump a laissé une place. Barack Obama donc était effectivement assez leader sur ce thème-là. Qu'est-ce qui l'anime par rapport à ces thèmes-là, qui n'étaient pas les siens quoi, au départ ?
Qui n'étaient pas les siens, mais je pense qu'ils sont devenus le sien dès le début de la campagne électorale. Est-ce qu'il en a assez parlé pendant la campagne ?
Non.
Sans doute pas assez. Mais par contre, dès le programme sur lequel il a été élu, il y avait effectivement des mesures fortes sur certains aspects de l'écologie, et notamment sur ces aspects de climat. La fin des véhicules essence et diesel en 2040, c'était dans son programme. Le basculement vers la fiscalité écologique, c'était dans son programme. La fin des centrales à charbon en France, c'était dans son programme. La fin de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en France, c'était dans son programme, etc. Donc il y avait déjà cette concrétisation de l'importance de l'enjeu climatique. Et aujourd'hui, vous avez raison, il a pris une place sur la scène internationale. Tant mieux, il fallait occuper la place, il ne fallait pas laisser l'actualité internationale climatique simplement dictée par les agissements de Trump. Donc c'est très bien que lui et d'autres, Angela Merkel, aient repris une position forte. C'est très bien que la France porte ça avec d'autres pays.
Arnaud Gosselin, qui est donc avocat environnementaliste, dit que Macron sera écolo le jour où il acceptera de faire de l'écologie non pas une simple branche de sa politique publique, mais une véritable racine.
Eh bien, ces racines, elles sont déjà là. Par exemple, le grand plan d'investissement qui a été effectivement annoncé dès le début du quinquennat, plus de la moitié est sur la transition énergétique. On a effectivement les engagements complémentaires sur le climat et la neutralité carbone d'ici 2050. On a tout un tas comme ça de preuves par l'action qu'il va falloir maintenant qu'on concrétise au cours des 5 ans. On sait bien que l'écologie, bon, c'est la première fois qu'elle est à ce niveau-là portée par un président en France. Tant mieux, il faut que chacun regarde et analyse l'ensemble des avancées avec l'ensemble de ce qu'on considère comme des reculs pour faire un bilan global.
À suivre dans C'est haut de mon amour sur France Inter, il y aura donc un autre sujet d'actualité avec Mathieu Orphelin et Michel Polaco. On parlera de Notre-Dame-des-Landes, un peu chaud l'affaire quand même. Et puis d'ici quelques minutes, je vais vous emmener en reportage dans le département de l'Eure, dans la communauté d'agglomération Seine-Eure, pour voir comment on sanctuarise, on va dire, l'eau potable de manière tout à fait intelligente et efficace.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent sans effort, sans mouvement sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles, les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Le monde ancien, dans ce pays, marcher dans le jardin désert. Je voudrais retourner à la mer, là où l'amour s'en est allé. J'entends les hélicoptères survolant la Méditerranée.
Retourner à la mer, c'était Raphaël, donc sur France Inter, choisi par Muriel Perret, notre programmatrice. J'espère que vous allez bien, en ce samedi, tranquillement, peut-être chez vous, dans votre jardin, je ne sais pas. Oui, il faut un peu se couvrir quand même aujourd'hui. Je vais vous emmener dans le département de l'Eure pour vous raconter en fait une belle histoire de politique locale. On est dans la communauté d'agglomération de Seine-Eure. Alors vous avez Val-de-Reuil, si vous connaissez, vous avez la ville de Louviers, bien sûr, aussi. Et l'entrée de cette histoire, c'était la qualité de l'eau potable. Car on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une très belle nappe, hein, tout ceci fonctionnait pas mal, mais il y avait évidemment avant de l'agriculture conventionnelle autour. Alors, cette communauté d'agglos donc a acheté des terres, 110 hectares, dont une trentaine donc pour du maraîchage. Ils ont donc installé, vous l'avez compris, du maraîchage. Et c'est intéressant, dans cette Normandie où, soyons clairs, la surface agricole utile est la plus faible de France. En bio, elle est de 1%. Et on va donc prendre nos bottes et rejoindre Régis Petit, qui est le directeur général des services de cette agglomération de Seine-Eure. Allez, c'est parti. Le domaine s'appelle le domaine des Auprés. Et donc, il a fêté ses 5 ans, cette conversion, déjà depuis 5 ans.
Alors, on est dans le fond d'une vallée alluviale. On a des jolis coteaux calcaires de part et d'autre. Et puis une vallée qui s'est creusée au cours des dernières dizaines de milliers d'années. Et puis on est au fond de la vallée de Seine, en fait.
Alors c'est vrai que vous avez donc un élu qui est Bernard Leroy, donc qui est le président de cette agglomération, et qui, on lui a proposé, on lui a dit, écoutez, à ce moment-là, on peut très bien planter des arbres, et puis on n'en parle plus, ça va capter, ça va nettoyer, mais ce n'était pas la solution retenue.
On décide plutôt d'essayer de maintenir une activité agricole, et donc on part sur l'hypothèse d'une conversion en bio, avec sur les 110 hectares, 80 hectares qu'on réserve aux grandes cultures et 30 hectares qu'on décide de dédier au maraîchage. Alors on fait des études de sol avec le GRAB, à l'époque le groupe régional d'agriculture biologique de Haute-Normandie. Et donc on convertit 30 hectares en maraîchage et on s'aperçoit très vite que pour faire du maraîchage, il faut des lieux de stockage, des lieux de transformation. Et donc on a derrière nous, une friche industrielle qui vient malheureusement il y a 5 ans d'apparaître avec une entreprise qui quitte le secteur. Les élus acceptent d'acheter cette friche industrielle pour y réimplanter toute une activité économique orientée autour du bio. Décide d'acheter cette friche industrielle et de co-construire un projet avec les acteurs du site. Donc les acteurs, ce sont les agriculteurs sur les parties en grande culture, ce sont les maraîchers et ce sont des acteurs de la transformation, donc une entreprise d'insertion qui décide d'installer une légumerie-conserverie. C'est un traiteur, MyTraiteur Bio, qui décide d'installer son atelier de transformation. Et là, récemment, on accueille un brasseur qui s'installe.
La brasserie des deux amants.
Exactement, on refait le lien avec l'histoire. Et puis également une coopérative bio, Terre Bio Normandie, qui s'installe également pour regrouper ici des produits et les redistribuer ensuite. Et puis on anime tout ça avec une cuisine pédagogique qui est gérée par une association Saveurs et Savoirs.
Qui touche aussi bien les enfants que les adultes.
Que les adultes.
Et là maintenant, on est à plus de 20% de bio dans les repas, quoi.
C'est ça. C'est du bio, c'est du local. Et comme le dit le slogan, le bio local, c'est idéal.
Alors là, on va changer de lieu, Mélanie Jugy. Qu'est-ce que l'on voit ? Des vaches, des brebis. Où on est ? Parce que là on n'est pas dans la zone de maraîchage, hein, bien sûr.
Non, là, on est sur une ancienne peuplerie qui a été restaurée en zone humide, parce qu'initialement, c'était quand même une zone humide. Et qui s'appelle les pâtures parce que à une certaine époque, c'était déjà une zone de pâturage. C'est un site qui se trouve dans le champ d'alimentation des forages des Auprés. Et donc, lors du travail qui a été réalisé par l'agglomération pour la protection de la ressource, on a voulu restaurer cette zone humide, puisque les zones humides ont aussi un intérêt pour la protection de la nature de la ressource en eau.
Donc, une fois de plus, on boucle les cycles, c'est-à-dire qu'on fait avec la nature, hein, on la prend par la main ou bien c'est elle qui vous prend par la sienne, et on évite évidemment toute détérioration du sol.
Oui, une peuplerie, ça n'avait pas un réel intérêt en termes
de bois,
biodiversité. Enfin, voilà. Et puis les feuilles de peuplier se dégradent très mal, et donc on a un impact aussi sur le sol qui n'est pas intéressant. Donc là, de supprimer cette peuplerie et de les remplacer par des espèces plus adaptées, locales. Donc on a ici, on a réintroduit aussi le peuplier noir, donc qui est une souche locale. On a mis des chênes, des aulnes, du saule.
Et puis des bêtes.
Et des bêtes. C'est comme ça qu'on a commencé depuis le mois de janvier à mettre des vaches d'abord.
Alors c'est pas des Highlands, hein, c'est des Bretonnes, ça.
Des Bretonnes pinois. Pas vaches. Oui. Le site fait 50 hectares au total, donc on peut pas non plus.
Mais il y a un peu plus de brebis quand même là.
On a un peu de renouée du Japon sur le site, ce qui nous embête fortement. Parce
c'est très envahissant. Voilà. Et la vache ne la mange pas. Attends, peut-être
la vache ne la mange pas trop.
Non.
Et surtout, la vache est sur des grands espaces, donc elle ne se concentre pas sur la renouée.
C'est ça.
Alors que les moutons, on peut les concentrer sur des plus petites zones avec la renouée du Japon et on a quand même des bons résultats. Les moutons, au début, ils n'y allaient pas trop. Ils ont mis un peu de temps. Ils ont commencé par manger ce qu'ils connaissaient.
Moi, tu vas bouffer la renouée du Japon.
Et puis au final, ils s'y sont mis et maintenant, ils y vont volontiers.
Une chose qui vous est extrêmement chère aussi, c'est que vous n'avez pas baptisé les services de l'eau assainissement, eau potable, etc. Vous êtes le service du cycle de l'eau.
On est compétent en matière d'eau, d'assainissement, et classiquement, c'est des services qui s'appelaient eau assainissement. Nous, on l'a décidé de l'appeler la direction du cycle de l'eau, d'ailleurs, désormais, parce qu'on gère à la fois le petit et le grand cycle.
Alors, définition des deux.
Alors, le petit cycle, c'est, en gros, je prends de l'eau dans la nappe, je la distribue, je collecte les eaux usées qui sortent des maisons, je la traite et je la remets dans le milieu naturel. Nous, on gère le petit cycle, bien évidemment, mais aussi le grand cycle, parce qu'on gère également le milieu épurateur naturel, parce que quand on... Pour rassurer les auditeurs, on ne remet pas l'eau qui sort des stations d'épuration dans le robinet. Hein. On rejette l'eau des stations d'épuration dans le milieu naturel qui a une capacité à finir le travail qu'on a commencé avec les stations d'épuration. Et donc, on gère les rivières et les milieux naturels, les zones humides qui y sont associées.
Alors, vous allez jusqu'au bout du cycle parce que les bouts des stations d'épuration sont elles-mêmes réutilisées.
Exactement. On a une filière de recyclage de nos bouts de stations d'épuration avec tout un système de certification, de convention spéciale de déversement avec les industriels pour s'assurer qu'on reçoit bien des effluents qui soient compatibles avec ce qu'on sait traiter.
Que ce soit pas un ramassis de mercure et
voilà,
de cadmium.
Voilà, exactement. Et derrière, on produit un compost à partir de déchets verts. Donc on mélange deux déchets, des déchets verts, des bouts de station d'épuration. On a un process industriel, c'est un peu le principe d'une grosse cocotte minute. Et en 3 semaines, on fait un compost qui est un produit normalisé. Donc avec 2 déchets, on fabrique un produit qui a une valeur marchande, qu'on vend aux agriculteurs, qui ramène de la matière organique dans le sol et qui permet de gérer mieux le cycle de l'eau parce que la matière organique dans le sol, c'est ce qui permet d'éviter des problématiques de ruissellement et d'érosion.
Comment ça se passait avant, donc avec les boues ?
Alors avant, on avait essentiellement des boues de station d'épuration que l'on chaulait. Donc, on mettait de la chaux pour les rendre agronomiquement plus intéressantes. Donc, ça nous coûtait de l'argent, la chaux. Ensuite, on payait pour transporter nos boues, puis on payait pour les épandre. Aujourd'hui, on fabrique du compost. Alors, ça a un coût aussi, hein, il ne faut pas le nier. Mais on change totalement la dynamique puisque c'est un produit qui a une valeur marchande. Les agriculteurs viennent l'acheter. Donc, ils ne sont pas du tout dans la même philosophie, je dirais, avec ce produit. On est passé d'un déchet à un produit.
Ah, bah alors là, je vais arriver devant l'exploitation de Yves Sorek et maraîcher. Bonjour Yves.
Bonjour.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que maraîcher, aujourd'hui ?
Alors ici, particulièrement, c'est la qualité des terres qui pose vraiment un gros problème. C'est des terres qui ont été matraquées par l'agriculture conventionnelle pendant des années et des années, puisque c'était une zone qui était liée au développement de la ville nouvelle de Val-de-Reuil, donc qui était donnée à des agriculteurs par bail précaire. Et donc, ils ne nous facilitent pas tellement le travail, que ces terres sont totalement dépourvues de matière organique.
Que vous remettez donc au quotidien.
Et donc voilà, donc moi ça fait 3 ans que maintenant que je cultive ici, La première année, je peux vous dire tout ce que j'ai semé, je n'ai rien récolté. C'est des terres qui sont vraiment à remettre en état. Et là, au bout de 3 ans, la troisième année, j'arrive à comprendre comment ça fonctionne et j'arrive à récolter des choses de ce que je cultive.
Oui, c'est ça. Quand on parle vraiment de 3 ans de conversion, c'est minimum.
Les terres n'étaient pas du tout réenrichies en matière organique, par exemple, et la vie du sol était catastrophique. On pouvait faire un trou de bêche n'importe où, on ne trouvait jamais une seule bestiole.
Voilà, et maintenant c'est reparti.
Ça va beaucoup mieux.
Alors, là on vient de passer le champ de luzerne. C'est nécessaire pour la captation de l'azote, hein. Ça c'est quand même, ça fait sacrément du bien. Puis là on est devant vos terres, qu'est-ce qu'on va manger là?
Alors là, en extérieur actuellement, c'est les légumes dits de garde, hein, qui sont là. Donc on a un champ de navets, un champ de radis noirs, un champ de carottes, vous avez ensuite des courges qui sont en cours de récolte, et vous avez également donc les 3 serres que j'ai implantées cette année, donc les serres tunnels, qui vont permettre d'avoir une production un peu mieux répartie sur toute l'année, parce qu'en Normandie, on a beaucoup de problèmes de saisonnalité, et si on veut nourrir la population et nos chers enfants, il faut avoir des systèmes qui permettent d'avoir des légumes toute l'année.
Alors ici, vous aviez donc les terres, et un autre outil de travail, là, qui est cette ancienne friche qui a été réhabilitée.
Tout à fait, la communauté d'agglomération a mis à notre disposition un bâtiment qui était un ancien bâtiment industriel et dans lequel nous avons un grand espace de plus de 1000 m² pour y entreposer notre matériel et nos récoltes. Nous avons un système de lavage de légumes, un endroit où on peut préparer des paniers et nous avons également un magasin de producteurs donc qui accueille les clients 2 jours par semaine pour l'instant à raison de 100 à 150 clients par semaine.
On part quand même de très loin en Normandie, 1% seulement de bio.
Et oui, on est vraiment les petits poussés. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aide au départ pour se développer. Parce que quand on a un marché qui est très bien structuré, tout va bien. Alors que si on a un marché qui est en balbutiant, eh bien c'est compliqué de démarrer une production. Et c'est pour ça que pour les jeunes qui s'installent en particulier, il faut bien voir tous ces enjeux-là. Et il faut sacrément les aider pour qu'ils réussissent dans les 3 à 4 ans qui viennent.
Alors moi je vais me tourner vers Pierre Julien, parce que là vous aimez vous ce lieu évidemment depuis, je vais pas dire depuis tout petit, mais enfin quand même, parce que vous êtes tout jeune, vous avez quel âge Pierre Julien?
36.
Et qu'est-ce qui vous semble intéressant aujourd'hui dans ce changement de société dont le bio fait partie?
Ce qui est intéressant c'est qu'en plus d'avoir cette conversion au bio, on a aussi cette proximité avec les communes principales du territoire. Et on a vraiment, dans la démarche de structuration des circuits courts, on y est totalement. Là. Et ça, au niveau social, c'est intéressant, parce que ça permet aux producteurs locaux de valoriser directement leurs produits auprès des acheteurs, d'avoir ce contact qui n'existe peut-être plus dans certaines filières, où on a des coopératives ou des intermédiaires qui font des achats de masse et autres, qu'on retrouve peut-être plus. Et donc, il y avait cette dynamique-là qui était vraiment intéressante, en plus de l'aspect collectif.
La difficulté, on le sait, véritablement, quand il faut accompagner donc, des maraîchers bio, c'est le moment de la conversion. Parce que donc ils ont récupéré une terre, évidemment, il faut 3 ans, hein, le temps de la dépolluer.
Et aujourd'hui, le gros avantage qu'on a, nous, à l'agglomération, c'est que là, maintenant, les 110 hectares de terre sont toutes certifiées.
Ouais.
Et on a la possibilité, si jamais demain, un des maraîchers souhaitait partir, ou si jamais il y avait des céréaliers pour des raisons diverses ou autres qui souhaitaient quitter des terres ou autres, on peut directement réinstaller quelqu'un en bio, donc directement avec la valeur ajoutée. Et si jamais on avait une période de latence entre le départ de l'un et une arrivée d'autre, nous, agglomération, pour même pas quelques centaines d'euros, on peut porter la certification, parce que c'est la terre qui est certifiée, pas le producteur, et on peut directement réinstaller quelqu'un. Donc économiquement, c'est un réel atout pour nous.
C'est un véritable levier même pour un territoire.
Absolument. Et avec le recul qu'on a aujourd'hui, on sait que économiquement, c'est viable. C'est difficile au début, mais on y vient. On a créé des emplois non délocalisables. Avec, en bio, une nécessité de main-d'œuvre qui fait que derrière, ça peut aussi, de façon saisonnière, générer de l'emploi sur le territoire, et notamment de l'emploi qui peut concerner des personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi. Ça peut être un pied à l'étrier pour certains, et envisager professionnellement des reconversions qui peuvent être intéressantes. Et ça, c'est un réel plus là dans ce projet-là aussi.
Régis Petit, quelles sont les conditions pour que ce modèle soit transposable ?
L'atout essentiel pour transposer ce modèle, c'est quand même maîtriser le foncier. Le foncier, c'est le nerf de la guerre. C'est que si la collectivité n'est pas propriétaire du foncier, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas obliger un agriculteur à se convertir s'il n'a pas envie. Et donc, bien évidemment, la maîtrise du foncier, c'est un élément essentiel. Et après, il faut de la volonté, de l'imagination. Avec tout ça, on arrive à faire un haut prêt ailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus.
La preuve par l'exemple, c'est aussi cela, donc CO2 Mon Amour avec différents reportages. Donc merci à Pierre-Julien Bavan qui s'occupe de la protection de l'eau, à Régis Petit et aussi bien sûr Bernard Leroy, donc le président de cette communauté d'agglo, parce que il y a cru, il y a mis les moyens et aujourd'hui eh bien ça refonctionne. Un autre sujet avec Mathieu Orphelin et Michel Polaco dans quelques instants. Ça va être quoi, Notre-Dame-des-Landes?
Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille de l'air fidèle. Tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé du sommeil, connaissance, retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages.
Tombé du ciel, c'est amusant pour Notre-Dame-des-Landes, non? Si, ah, d'accord, non, nous on aime bien, Xavier Pestudia et Muriel Pérez, et si on aime bien.
Pour les experts, il n'existe pas de solution idéale. Le rapport rendu ce mardi au gouvernement sur la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes est loin de trancher la question. D'un point de vue économique, la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est estimée à 992 millions d'euros. C'est deux fois plus cher que le réaménagement envisagé de l'actuel aéroport de Nantes. Le rapport évalue aussi l'impact environnemental du projet. En faveur des contres, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes émettrait plus de CO2 que le réaménagement de l'aéroport de Nantes. Le gouvernement promet une décision définitive fin janvier.
Un certain nombre de vérifications sur les éléments techniques qui sont mentionnés dans ce rapport seront conduites très rapidement, de façon à permettre au gouvernement de prendre avant la fin du mois de janvier, comme s'y est engagé le président de la République, une décision.
Réaction de Mathieu Orphelin, donc député du Maine-et-Loire, dans quelques instants avec Michel Polaco. PNC à vos portes, nous survolons donc le dossier cinquantenaire, totem le plus contesté aujourd'hui en France. Nous écoutons d'abord le maire de Notre-Dame-des-Landes, 2000 habitants, Jean-Paul Leneau, au micro de Béatrice Duguay.
Clairement, on leur avait dit, ben, c'est des Landes, il n'y a rien. Et nous, avec un diagnostic agricole de la Chambre d'agriculture, on a pu leur démontrer qu'il y avait une vraie agriculture à Notre-Dame-des-Landes et que tous les ans, on installe au moins un jeune à Notre-Dame-des-Landes. On est quand même dans un département très dynamique, il y a beaucoup d'espaces agricoles qui disparaissent aujourd'hui. Et si l'aéroport venait à Notre-Dame-des-Landes, ce serait un accélérateur d'étalement urbain au nord de l'agglomération nantaise.
Et au bout des pistes de Nantes Atlantique, 4000 habitants, Jean-Claude Lemasson, donc le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu.
Le plan d'exposition au bruit qui serait proposé amènerait des contraintes très fortes puisque la zone B du PEB, ce qu'on appelle la zone contraignante avec la piste est en zone A, la zone B du PEB en fait serait allongée jusqu'à l'église. Dans cette zone B, on ne peut construire que des infrastructures et des équipements en lien avec la plateforme. Donc tout ce qui existe, ce sera muré, c'est-à-dire qu'on sera une ville fantôme.
Alors nous sommes, on le sait, face à un risque politique extrêmement important. Hein. On pourrait parler de Sivin, ce puissance 10, zadiste pacifique d'un côté, mais aussi zadiste très déterminé et prêt à en découdre de l'autre. Sont contre le projet Nicolas Hulot, François de Rugy, François Bayrou, sont pour messieurs Le Drian, Ferrand, Bruno Le Maire, Édouard Philippe. Alors là, il était pour, mais on va pouvoir y revenir. Et donc, Mathieu Orphelin, vous connaissez un peu vos positions, vous?
Ma position, elle est connue depuis 10 ans sur ce dossier. Effectivement, je ne suis pas favorable à la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le rapport remis par les médiateurs cette semaine, on a enfin l'étude de l'alternative. Cette alternative, qui est le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, n'avait jamais été étudiée par l'État de façon sérieuse. C'est dingue de se dire ça, mais c'est la réalité. Depuis 45 ans, il n'y avait jamais eu cette étude du plan B. Alors, il y a des éléments très intéressants dans le rapport qui ne tranche pas pour l'une ou l'autre des solutions, mais il y a des expertises complémentaires et notamment qui devraient rassurer le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, parce qu'il y a une expertise complémentaire du muséum, donc c'est pas n'importe quel expert, hein, qui montre qu'effectivement l'option réaménagement Nantes-Atlantique aura pas d'impact sérieux sur le lac de Grandlieu, qui est une zone remarquable située au bout de l'aéroport actuel. Donc ça, c'est un élément quand même très rassurant. Et c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui le dit. Donc voilà, c'est vraiment les meilleurs experts sur ce sujet. Donc ce rapport, il apporte sur ces questions-là, sur la question du bruit. On montre que en agrandissant la piste existante, en changeant un peu les procédures des avions, on va arriver à ne pas accroître les problématiques de bruit. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important, parce que c'est le problème principal, évidemment, vécu par beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va permettre ce rapport, une décision éclairée, enfin. Et moi, j'ai particulièrement apprécié les mots d'Édouard Philippe quand il dit, maintenant, c'est plus la question de faut faire Notre-Dame-des-Landes ou rien. C'est, est-ce qu'on fait Notre-Dame-des-Landes ou est-ce qu'on choisit cette nouvelle option qui est le réaménagement de l'aéroport existant.
C'est là d'ailleurs qu'il a évolué. Hein.
Et moi, évidemment, ce rapport, il me conforte plutôt dans l'idée de dire qu'il y a plus intelligent que de construire cet aéroport et de détruire 1200 hectares de terres agricoles et de zones humides au moment où l'artificialisation des terres en France, elle l'augmente encore et le rythme augmente. Je pense qu'il y a un moment où il faut être raisonnable et prendre des décisions qui s'imposent.
Même s'il y a eu un référendum avec 55%, on souhaite avoir Notre-Dame-des-Landes. On est d'accord que c'était un périmètre assez réduit hein, pour eux. Mais...
Alors d'abord, ce n'était pas un référendum, mais une consultation, effectivement, qui avait été limitée au département de Loire-Atlantique. On aurait pu les deux régions. Après, une question... on ne peut pas faire non plus comme s'il n'y avait pas eu de consultation. Hein. Voilà, c'est des résultats d'ailleurs assez équilibrés, 55% de oui, 45% de non.
C'est quand même le oui qui l'emporte. Hein.
Voilà, mais en tout cas, il faut respecter cette consultation, elle donnait une tendance, mais je crois qu'aujourd'hui, à la lumière des éléments nouveaux qui montrent que d'un point de vue écologique, économique, climatique, agricole, d'alimentation aussi avec ce qu'on va pouvoir faire à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est quand même des nouveaux éléments qui peuvent amener à revoir et à prendre la bonne décision politique.
Nous avons à Radio France la chance d'avoir un expert, un monsieur avion, qui a toujours adoré l'aviation. Il voit d'ailleurs lui-même. Bonjour Michel Polaco.
Bonjour Denis.
On parle de 5 millions aujourd'hui de voyageurs sur Nantes-Atlantique. Bon, et on dit que ce sera à peu près 9 millions, 8 à 9 millions en 2040. Bon, c'est pas très bien, mais en gros, c'est quand même une projection. Combien y en a-t-il avec une seule piste à Genève et à Heathrow, à Londres ?
Des aéroports dans le monde qui peuvent accueillir des quantités de passagers beaucoup, beaucoup plus importantes que Nantes-Atlantique aujourd'hui avec sa piste, il y en a beaucoup. Et le plus proche, effectivement, c'est Genève, qui est quand même assez inséré dans le tissu urbain. Hein. Genève, c'est pas en pleine campagne, loin de là. Même s'il y a le lac sur un des axes. Et Genève est à 16,5 millions de passagers aujourd'hui, avec une seule piste, et vise les 20 millions de passagers. En fait, un aéroport, c'est une piste et la capacité d'accueillir des avions. Et puis, c'est des installations terminales et la capacité d'accueillir des passagers. Le problème, c'est qu'à Nantes-Atlantique, depuis tellement d'années, comme on n'a effectivement pas envisagé cette hypothèse de développement, on n'a jamais fait les travaux et les aménagements nécessaires qui auraient permis à Nantes-Atlantique quand même d'attendre. Parce que même si on fait Notre-Dame-des-Landes, d'ici à 10 ans, Nantes-Atlantique, il va falloir faire des travaux. Et même si Notre-Dame-des-Landes existe, il va falloir garder une piste et une tour de contrôle à Nantes-Atlantique pour Airbus, qui est juste à côté et qui a besoin de faire voyager ces morceaux d'Airbus jusqu'à Toulouse, Hambourg, etc.
Michel Polaco, la finalité pour vous quand même de Notre-Dame-des-Landes, quelle est-elle ?
Si vous voulez, Notre-Dame-des-Landes, ça avait un sens il y a 50 ans, quand on faisait le 7e plan quinquennal, et qu'on imaginait, comme on l'a fait pour Roissy-Charles de Gaulle par exemple, qu'il serait nécessaire d'avoir un aéroport dans un certain type de développement du transport aérien. Mais depuis, on a quand même développé les TGV, ce qui est quand même un facteur très important, ce qui fait que le transport aérien intérieur s'est réduit de manière très importante. Et donc, en fait, une ville comme Nantes, elle a besoin surtout d'être reliée à des métropoles européennes, à des grandes métropoles françaises, mais très éloignées, et puis à l'international. Pour faire ça, on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de mouvements d'avions. Et on n'a pas besoin obligatoirement d'un nouvel aéroport de grande dimension avec plusieurs pistes. Vous voyez, deux pistes à Notre-Dame-des-Landes pour accueillir peut-être 9 millions ou 10 millions de passagers dans 30 ans. Londres aujourd'hui, avec deux pistes, accueille 80 millions de passagers. Ah. Et Londres va construire une troisième piste pour pouvoir passer à 100 millions de passagers. Donc ça vous donne une idée quand même du potentiel d'un aéroport avec deux pistes. Et donc, ça vous montre aussi que Nantes Atlantique, même s'il y a effectivement à prendre en compte des questions de nuisance, mais il faut pas oublier que l'avion électrique, on l'annonce pour dans 10 ans, il sera là dans 20 ans, dans 25 ans. Oui, non, faut être raisonnable. Mais je veux dire que les avions sont de moins en moins polluants. Tous les 5 ans, on fait un gros progrès en matière de pollution, de bruit, de nuisance. Que les avions sont de plus en plus sûrs, parce qu'on est arrivé aujourd'hui à un degré de sécurité qui est absolument considérable. Donc on peut dire que dans 30 ans, le paradigme aéronautique n'aura plus rien à voir avec le paradigme d'aujourd'hui.
Ceux qui vous écoutent, qui ne sont pas loin, vont vous dire, mais attendez, Paul Lacour, il habite Paris localement.
Non, mais il faut qu'ils sachent aussi que si on fait Notre-Dame-des-Landes, ils vont quand même falloir développer Nantes Atlantique pendant 10 ans pour pouvoir continuer à absorber l'évolution du trafic à Nantes Atlantique. Donc si vous voulez, en fait, il va y avoir 10 années un peu difficiles à passer, pendant lesquelles quand même le trafic va être de moins en moins nuisant.
L'autre finalité quand même, c'est aussi l'urbanisation.
De toute façon, si on fait Notre-Dame-des-Landes, on va construire des tas de maisons partout, on va construire des habitations, on va construire des industries, on va construire des tas de choses, et on va recréer, comme on l'a fait à Charles de Gaulle, comme on l'a fait à plein d'endroits, on va recréer une vie, une civilisation urbaine, qui elle aussi va avoir ses soucis d'environnement.
Mathieu Orphelin, est-ce que l'on peut se réclamer d'un nouveau monde, comme le fait Emmanuel Macron, et s'adosser donc à un projet qui est quand même sorti de l'ancien monde ?
Je crois que c'est vraiment un projet, effectivement, vous l'avez très bien dit, qui est d'une autre époque. Hein. Je rappelle, fin des années 60, imaginé pour accueillir le Concorde.
Il l'a accueilli d'ailleurs, mais c'était vraiment... pouvait poser Concorde à Nantes, on l'a posé plusieurs fois.
Mais là, NDDL, voilà. Le nouvel aéroport, c'était une de ses principales justifications.
Si Concorde
accueillir, accueillir le Concorde depuis, effectivement, a disparu. Donc, je crois que c'est vraiment un projet qui a été pensé, effectivement, d'une façon complètement préhistorique. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et on vient de changer la loi dès le début du quinquennat. Effectivement, maintenant, quand vous arriverez avec un grand projet, public ou privé, vous serez obligé de présenter les alternatives qui ont été étudiées. Donc, pour répondre très directement à votre question, ça aurait été complètement ancien monde de là confirmer la création de Notre-Dame-des-Landes sans se reposer la question. Et je crois que là, ce rapport d'expertise, qui était un engagement d'Emmanuel Macron, va permettre, j'espère, de prendre dans quelques semaines, évidemment, la bonne décision.
Est-ce que globalement, même si on fait beaucoup de progrès aujourd'hui en matière environnementale, mais est-ce qu'on ne corrige pas à la marge, en fait, l'idéologie de la croissance ?
En tout cas, il faut la faire évoluer. Parce que c'est pas forcément la décroissance de tout, d'ailleurs, moi, ce que je prône. Hein, c'est une croissance sélective. C'est une croissance où il y a des choses qui vont continuer à augmenter fortement. Par exemple, le développement des énergies propres. Par exemple, les solutions propres de mobilité. Par exemple, le bonheur, des choses comme ça. C'est des choses qu'on a envie de voir croître. Et puis, au contraire, tout ce qui a un impact direct ou indirect sur l'environnement doit, là, fortement et très rapidement décroître. Donc, il faut repenser la croissance. Il faut arriver à une nouvelle croissance plus sélective et plus durable. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important.
Merci à vous, Mathieu Orphelin et Michel Polaco. Donc, député du Maine-et-Loire, petite parenthèse quand même, c'est important. Dans les villes cyclables qui font pas mal de choses, Angers, et Angers, c'est très agréable de circuler à bicyclette. Si, il faut le dire. Donc, la réponse pour Notre-Dame-des-Landes, la réponse jupitérienne, ce ne sera pas le 25 décembre, ce ne sera pas le 1er janvier non plus. Non, je pense que ce sera au cours du mois de janvier. Merci.
Merci Anne-Laure Cochet, Elisabeth Collet à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, notre assistante, et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors la semaine prochaine, eh bien Pierre Rabhi. Eh oui, ça vous dit quelque chose Pierre Rabhi, bien évidemment. Alors on va s'intéresser à l'enfance et un peu à l'histoire de Pierre Rabhi. On connaît évidemment sa sensibilité environnementale, tout ce qu'il a fait, on y reviendra aussi un peu, mais ça va être toute son histoire que l'on va donc dérouler avec Pierre Rabhi ce 23 décembre. Si vous avez Ushuaïa Télé, Ushuaïa Le Mag, et que j'ai le plaisir de présenter, eh bien ce sera Lamia Msali, SM Lali de Sea Shepherd ce soir à 20h. Mais à 20h, vous avez aussi l'excellent Babel sur scène de Julia Foyce. Oui, si vous intéressez à la photo, ben vous avez au mois de décembre, avec notre partenaire Terre Sauvage, un spécial photo animalière, donc à ne pas louper. Et puis, comme j'ai reçu, j'étais plutôt avec lui sur place, avec Jean-Michel Bertrand, l'homme de la Vallée des Loups, essayez de retrouver le numéro du mois de novembre, parce que vous avez aussi un très très bon sujet, donc avec Jean-Michel Bertrand, toujours dans ses numéros de Terre Sauvage. La Tulu mon petit loup, vous en avez l'habitude, ce sera 19h54, et puis je vous le dis parce que ça a été réédité, donc chez Gallimard Jeunesse, vous avez les indispensables de La Tulu mon petit loup. C'est très dur de faire des choix, vous imaginez bien, donc il y a plus de 90 livres principalement, si, il y en a aussi pour ados et pré-ados, mais principalement donc ce sont les albums, et ce sont des livres qui étaient aussi bons il y a 10 ans et qui pourront être aussi des indispensables, d'où le titre. Encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, allez, on ne sait pas. Je vous souhaite un excellent week-end, France Inter. Dans quelques instants, ce sera la librairie francophone avec Emmanuel Quérade, et il est 15h.